Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 7 avril 2014. Et pour une fois, on est presque à l'heure. Ça, c'est peut-être pour bien commencer le mois d'avril avec Jean-Pierre dans les studios, Robert est en duplex, en attendant Michel qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Alors, actualité internationale tout d'abord aujourd'hui, par quoi faut-il commencer? Je trouve que c'est assez sympathique, si l'on peut parler ainsi, de traiter du sujet du Rwanda, où il y a eu pour les Français pas mal de péripéties, et ça continue, puisque avant-hier encore, on devait avoir une ministre, ce matin, on devait avoir un ambassadeur présent aux commémorations des 20 ans de ce massacre des Tutsis par les Hutus au Rwanda. Et finalement, il n'y a eu personne parce que Kagame a décidé de monter au créneau contre la France et d'interdire, il a retiré son accréditation à l'ambassadeur, d'empêcher donc que la France soit représentée. Il y avait Kouchner quand même, mais bon, lui c'est un peu particulier. Dans une commémoration qui évoquait des événements extrêmement graves, dans lesquels, alors là, les écoles s'affrontent, dans lesquelles les Français pourraient être impliqués et considérés comme largement responsables de ce qui s'est passé, quoi. Du moins, surtout au début, puisque ils étaient là pour sécuriser, paraît-il, la zone, et qu'au contraire, ils ont eu des actions ou des non-actions, mais qui ont fait qu'ils ont plutôt contribué à laisser le massacre se faire plutôt qu'à empêcher des choses. Alors, grosse polémique avec Kagame au fil des années, et lui-même n'est pas entièrement clair dans cette affaire, puisque on ne sait toujours pas qui a abattu l'avion d'Henri Brumana. D'aucuns disent que c'est des Hutus extrémistes, et d'autres disent que c'est le FPR, c'est les Tutsis qui voulaient à l'époque prendre le pouvoir et qui ont déstabilisé les choses. Bon, ça s'est retourné contre eux à l'intérieur du pays, mais en finale, ça leur a quand même permis, venant de l'Ouganda où ils s'étaient regroupés militairement, de prendre le pouvoir dans le pays et 20 ans après de le garder toujours dans une situation où les choses se normalisent. Mais vous pensez bien que 800 000 personnes massacrées, on ne passe pas ça par perte et profit dans une population, et que la douleur 20 ans après reste extrêmement vive chez toutes les personnes concernées qui ont perdu une voire toute leur famille dans ces massacres. Voilà, on pourrait dire peut-être d'autres choses encore. Robert, tu voulais ajouter quelque chose ?
Il semblait dans un premier temps que le gouvernement, les gouvernements d'époque, ou même le gouvernement actuel français, s'était dédouané, si tant est qu'il le fallait, notamment en permettant que s'organise ce procès à Paris d'un génocidaire qui a été condamné lourdement d'ailleurs, et reconnu coupable et condamné. Et donc c'était comme une espèce de signe que la France donnait au Rwanda et au président Kagame pour faire que la situation diplomatique se stabilise. Mais aussi, c'est qu'à côté de ça, il y a une action en justice menée notamment par Trévisic, qui est le juge français, très incisif, et qui lui, est sur le point effectivement de mettre en cause les gens du FPR, c'est-à-dire du gouvernement Tutsi, c'était pas le gouvernement à l'époque, mais l'opposition Tutsi de l'époque, dans la destruction de cet avion présidentiel. Et donc là, c'est plus la réaction, effectivement, dans les pays où, effectivement, les états de droit sont difficiles à mettre en place, on le voit même chez nous, hein, des fois, il y a des collusions entre politique et justice, et bien là, le Kagame pense que la France aurait dû s'abstenir de faire pression sur sa propre justice, ses juges, pour que effectivement on cesse cette enquête sur les origines du crash de l'avion. Or, ça n'a pas été le cas. Et donc, visiblement, Kagame saisit cette situation pour porter très haut la polémique, puisque, effectivement, comme tu l'as expliqué, ça n'est plus simplement de la complaisance ou de la complicité passive, mais c'est carrément une accusation de complicité active. Aujourd'hui, il semble que les propos qu'il tient sont moins durs que ceux qu'il a tenus et qui a déclenché la situation. Il n'empêche que l'ambassadeur n'a pas été autorisé à assister. Alors, peut-être que là encore, les Rwandais ont pensé que la représentation par un ambassadeur, c'était encore aussi presque plus humiliant qu'un président, qu'il valait mieux qu'il n'y ait personne du tout, ou que le président vienne et puis qu'il accepte, effectivement, disant on est pour rien, mais vous voyez, je suis là parce qu'il y a quand même 800 000 personnes qui ont été massacrées, et puis que finalement c'est une époque où c'était encore finalement les forces issues du colonialisme qui sévissaient, puisque finalement c'est français et belges, c'est les armées françaises et belges parce que c'était belge qui était le plus impliqué dans la région avec le Congo notamment, qui était en première ligne, donc qui aurait dû éviter ça. Mais ça n'a pas été fait, et puis, puis on en est là ce soir.
Ouais, dire qu'on y est pour rien, il ne faut peut-être pas aller trop vite en mesure. Il semble que les services secrets savent maintenant qui a abattu l'avion, mais qu'il y a un consensus diplomatique pour ne pas le révéler au grand public. Michel.
Ça fait 20 ans qu'on en est à des thèses, des revirements, la situation est quand même 20 ans après, toujours concernant l'assassinat d'Abiarimana, concernant le rôle exact des troupes françaises qui étaient présentes, hein, pendant 3 mois, on massacrait à la machette 800 000 personnes. On ne peut pas croire vraiment que les Français présents n'aient rien vu, qu'ils n'aient pas fait de rapport à leur supérieur hiérarchique et que l'hiérarchie militaire n'en ait pas référé aux politiques. La complicité n'est pas loin. Rappeler ces faits-là aussi, hein, géopolitiques, c'est que le FPR donc, opérait depuis l'Ouganda, qu'il était logistiquement soutenu par les États-Unis. L'Ouganda est soutenu par les États-Unis, hein, c'est le premier donc, des États évangélistes en Afrique, l'Ouganda. Les Américains, si on peut parler vraiment d'un État dans lequel les Américains sont très bien implantés, en dehors du Libéria, c'est bien donc l'Ouganda. Donc on a vu au départ des positions, des crispations d'ordre géopolitique, d'un côté les précarés, tu avais raison d'invoquer la présence passée des Belges, on a pris le relais et la complicité est quasiment avérée. Tous les chercheurs dignes de ce nom, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, penchent effectivement pour cette thèse, à savoir effectivement que les instances françaises ont été complices, hein, contrairement à ce que a voulu nous faire croire qu'il est en son temps, avec son rapport dédouanant les politiques et les militaires français. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir le revirement de Kagame. Rappelons-nous juste le rapprochement entre notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et Paul Kagame. Donc c'était une histoire de donnant-donnant. Tu me refais une virginité parce que je sais effectivement que j'ai le cul sale concernant l'affaire rwandaise. Donc tu essayes effectivement de ne plus me citer, de ne plus m'accuser, Paul. En contrepartie, je te refais une virginité pour ce que font tes troupes en Congo, en République démocratique du Congo, où elles opèrent de fait, hein, dans le Kivu. Et donc c'était ce jeu donnant-donnant. Alors peut-être il y avait aussi une somme d'argent, hein, parce qu'on a pris l'habitude, hein, de ces sommes d'argent en général. Il y a toujours un intermédiaire qui s'appelle le Qatar, hein, qui est là dans cette histoire-là. Alors peut-être la réconciliation de la France et du Rwanda passait aussi, on ne sait pas, hein, là je suppute, hein, par ce type d'affaires. Bon, Hollande arrivant au pouvoir, il n'était pas dans le secret, d'où le revirement, parce que jusqu'au dernier moment, hein, les officiels français avaient bien l'intention donc de se rendre à cette cérémonie. Et puis ils avaient mis un peu aussi, ils avaient fait un peu de publicité, hein, sur le, comment dirais-je, ils étaient du bon côté, puisqu'ils jugeaient les criminels sur leur territoire, hein, ces procès visant à viser les dignitaires ou tout, donc pour des crimes commis sur la minorité Tutsi dont fait partie Kagame. Donc tout était mis en place. Et là, c'était vraiment une très très grande surprise quand même que Paul Kagame donc dise que la France n'était pas le bienvenu et accuse officiellement de la France. Donc panique dans les chancelleries, là aussi, hein. Bravo pour le ministère des Affaires étrangères française. On voit effectivement qu'on a des gens qui sont très très au fait de ce qui se passe, même dans leur ancien précaré qui est l'Afrique. Félicitations. Et donc aujourd'hui, on en trouve au point mort. Au point mort, c'est-à-dire 20 ans après, Kagame réclame toujours devant la justice, tu fais bien de le rappeler, mais aussi directement aux dirigeants politiques français, donc le fait qu'ils reconnaissent leur part dans le massacre commis sur les Tutsis en 1994.
Voilà, on va, bon, ce sujet, on sera amené à y revenir, mais enfin, c'est quand même ce moment de commémoration. 30 000 personnes dans le stade, beaucoup d'émotions, une flamme allumée pour 100 jours pour commémorer les disparus. Dans le pays, c'est très important. Une autre actualité très chaude ce soir, c'est l'Ukraine. Alors, après la Crimée, est-ce que, comme on l'avait un petit peu évoqué déjà, supputé vaguement, il n'y a pas une autre province de l'Est de l'Ukraine, avec des villes comme Kharkov, Donetsk, passablement russophones, qui ne sont pas en train de faire sécession? Et pour ça, de demander, enfin on peut parler comme on veut, soit le soutien, soit l'invasion russe pour les IAD, dans la perspective d'une transformation de l'Ukraine en une zone de différentes républiques souveraines, un fédéralisme en somme, quoi. Et ben, ces gens-là, ils vont fort. Alors, sont-ils des habitants ou sont-ils déjà des Russes infiltrés ou des Russes de Crimée? Mais ils ont investi des bâtiments officiels dans trois villes de l'Est et ils déclarent tout go que si on vient les déloger, et ben, ils feront appel à l'armée russe qui est pas loin de l'autre côté de la frontière pour venir empêcher cette eux, ils appellent ça comme une exaction contre leur autonomie, quoi.
Oui, alors le problème reste entier pour l'Ukraine. On a bien vu que la crise de l'Ukraine, c'est une crise avant tout interne. On parle effectivement du jeu des Occidentaux, de Moscou dedans, bien sûr, hein, chacun tire les ficelles, mais avant tout, le problème est interne au pays. Et il faut se mettre un peu à la place de ces populations, donc de la région principalement du Donbass, de Donetsk, de Lugansk, de Kharkov. Ils sont principalement russophones, pour ne pas dire russes, ils se sentent russes avant de se sentir ukrainiens, pour certains. Mais en tout cas, la très grande majorité d'entre eux parlent russe, mais ils ne parlent pas l'ukrainien, malgré le fait que les deux langues soient très proches. Hein. Il faut toujours rappeler, hein, ce fait-là. Le début du drame, c'était le 22 février, lorsque le Parlement est tombé et que la première tentative donc de réforme constitutionnelle visait la langue et visait surtout à enlever le russe en tant que langue officielle. Hein. C'est la deuxième langue avec l'ukrainien. Panique à bord, parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire lorsque on est fonctionnaire d'un État dont on ne maîtrise pas la langue. Si la seule langue, ça devient l'ukrainien, de fait. Ils ont pris, à juste raison, comme une attaque directe, hein, les visant donc toutes ces régions à majorité russophone. Et surtout, n'oublions pas que ça a été mené par des gens qui sont principalement originaires de Galicie, donc d'Ukraine occidentale, et qui sont anti-russes, on peut dire les choses, et qui se revendiquent ouvertement de Stéphane Bandera, donc le président de l'État indépendant ukrainien, mais fasciste et pro-nazi de 1941. Donc, dans cet élan, dans cette crispation, il faut comprendre un peu la position de cette population-là. L'armée ukrainienne, on a vu déjà des forces internes anti-émeutes, les Berkout, ont été dissoutes. L'armée ukrainienne, on l'a bien vu avec l'affaire de la Crimée, elle est passée pour moitié dans l'état-major russe, l'autre a été totalement dissoute. Donc on est en train de reconstituer aujourd'hui, et ça aussi les russophones de cette région le voient, une garde nationale, hein, sous proposition donc de la Rada du Parlement, et cette garde nationale intègre quasi exclusivement des gens qui sont originaires des groupuscules comme Pravi Sector ou proches de Svoboda, etc. Comprenez un peu la panique. Hein. Donc cet État, du moins l'État qui court depuis fin février, n'est plus le leur. Eux, ils se sentent citoyens ukrainiens. Ils se sentent de nationalité au sens culturel russe, mais ils sont citoyens ukrainiens, nés en Ukraine. On est d'accord. Mais de là, ils voient donc s'accaparer de tous les organes du pouvoir les franges les plus extrémistes, et ceci avec la quasi-bénédiction de la plupart des chancelleries occidentales, hein, qui pipent mot. Donc, dans ce contexte-là, la diplomatie russe, Poutine, ne s'en cache pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas, lui, l'intention, il le dit officiellement, de démanteler l'Ukraine, mais il rappelle qu'il est président de tous les Russes en tant que citoyen russe de Russie, de la Fédération de Russie, mais aussi de tout de la population russe qui se sentirait donc en danger, qu'elle soit au Kazakhstan, qu'elle soit en Géorgie, qu'elle soit dans les États baltes ou qu'elle soit en Ukraine. D'où effectivement le risque réel d'intervention directe ou indirecte des Russes dans ces régions-là. Alors, que demande justement la population russophone de ces régions-là ? Elle demande une fédéralisation. Une sorte, effectivement, si l'Ukraine doit être indépendante, que chaque région puisse continuer à s'auto-administrer. Donc, pourquoi pas, hein, y a bien la Confédération helvétique. On devrait pouvoir trouver un modus vivendi sous forme fédérale, confédérale, et avec une garantie surtout de la neutralité. Comme ça, plus de on va rentrer dans de questions si on va rentrer dans l'OTAN ou pas, ou si on sera phagocyté par le grand voisin russe. Et tout ceci, donc cette thématique, donc le gouvernement du premier ministre Yatsenyuk ne veut pas en entendre parler. Donc on voit bien qu'il y a crispation des deux côtés. On ne parle même pas du volet économique qui est catastrophique.
Oui, j'ajouterais effectivement sur le plan économique, toute cette région de l'Est, du Donbass, elle est très industrielle, c'est la partie la plus riche de l'Ukraine. C'est une industrie effectivement qui est aux mains des grands complexes dirigés par des oligarques et complètement, on va dire, intégrée au niveau du marché commercial et de l'échange avec la Russie. Or, si, comme ça va se passer, la Russie applique, et elle l'a annoncé, donc les nouveaux tarifs gaz et pétrole, ça veut dire que toute cette région industrielle va souffrir. Et évidemment, là, il y a effectivement comme quelque chose qui est très conflictuel, et il faudra bien trouver autre chose comme solution, d'où effectivement ce que tu disais, les possibilités dans une Ukraine fédérale. Peut-être, il y aura des accords particuliers entre la Russie et les régions comme celle-ci, où tout est concentré, l'industrie.
Oui. On ne peut pas dire qu'on voit la solution au bout de notre nez, là.
Ah, on en est très, très, très loin, parce que justement, cette thématique, effectivement, de sortie de crise, qui passerait par la garantie de la neutralité ou par le modèle fédéral ou confédéral, les chancelleries occidentales, à commencer par Washington, ne veulent pas en entendre parler. Voilà où est le problème premier. Et continue donc à soutenir ce gouvernement qui est issu d'un coup d'État. Enfin, il faut surtout le rappeler, hein. C'est-à-dire que la sortie de crise, elle passerait par un gouvernement d'union nationale, d'accord, qui représenterait donc tout le spectre politique et toutes les régions ukrainiennes, en attendant l'élection présidentielle prévue le 25 mai, et la mise en place pour un travail concernant donc justement ce cadre-là. Or, aujourd'hui, on risque d'avoir beaucoup, beaucoup d'insatisfaits, que ce soit parmi les gens qui ont été présents sur Euromaïdan, pas seulement les franges les plus extrémistes, mais aussi ceux qui en ont marre de la corruption généralisée, de la kleptomanie, qui était la réalité aussi ukrainienne, et qui risquent de se retrouver avec les mêmes oligarques, hein, les mêmes oligarques, mais en plus, des problèmes, des politiques d'ajustement structurel dans le cas où ils seraient aidés par le FMI ou l'Union européenne leur promettrait donc un plan de stabilisation. Donc on voit bien que malheureusement c'est non seulement un problème politique, mais demain ça risque d'être un problème économique très aigu que l'Ukraine risque de rencontrer. Concernant donc l'augmentation du prix du gaz, l'augmentation donc qui est prévu, c'est juste pour remettre donc au prix du cours mondial, hein, du marché mondial. Donc c'est pas la Russie qui outrepasse ses droits. Donc la Russie a déjà fait cadeau pour plus de 11 milliards de dollars, donc en manque à gagner, hein, donc à l'Ukraine. Donc il semble effectivement que c'est de bonne guerre, hein, un premier ministre qui annonce qu'il compte intégrer l'OTAN, de lui ramener juste au tarif du marché le prix du mètre cube.
Voilà, on a pas mal de sujets à traiter. Je pense qu'on ne traitera pas tout, parce que si on fait le tour des élections importantes dans les grands pays, on va devoir balayer l'Inde, l'Afghanistan, la Hongrie aussi. Alors peut-être commencer par quoi ? La Hongrie, c'est assez proche de nous, et puis on est toujours un peu dans l'Europe centrale, avec une reconduite de Orban, hein, ce dirigeant de droite pur et dur dans son genre, qui verrouille un peu tout le pays à son avantage, les médias, l'économie, le culturel. Il a fait 45%. Certains le préconisent en France à droite, il essaie de ratisser le plus possible à l'extrême droite, mais ça n'a pas empêché son parti directement affiché d'extrême droite, le Jobbik, de faire 20% des voix. Lui a fait 45%. Il avait pris la précaution de modifier un peu les règles électorales avant, pour que, avec le même pourcentage, il ait deux fois plus de députés et les autres deux fois moins, quoi. Les Jobbik d'extrême droite, c'est quand même 900 000 voix dans le pays, c'est assez inquiétant. Ont 25 députés au lieu de 47 précédemment. Et l'alliance de gauche avec le Fidesz arrive derrière ce parti-là, quoi. Donc, dans le cadre de l'Europe telle que les Occidentaux la voient, avec les valeurs occidentales, on est de nouveau mal parti avec une Hongrie qui se démarque par les décisions qu'elle prend, en matière de morale sociale, par exemple, qui se démarque largement des choix européens.
Complètement, mais c'est en même temps la tendance générale d'un vote populaire qui se tourne vers les extrêmes. La gauche de la gauche est quasiment inexistante aujourd'hui en Europe de l'Est, hein, de la Baltique à l'Adriatique, il n'existe plus. Les socialistes sont plutôt orientés vers les partis centristes, hein, donc pro-européens, donc on met en place la politique décidée par Bruxelles, qui va à l'encontre de ce que vivent leurs concitoyens, donc les plus humbles, hein, que ce soit les Polonais. On parle du miracle économique polonais, mais il y a toute une frange de Polonais qui vivent quand même dans la misère, on a tendance à l'oublier. En Hongrie, Viktor Orbán, c'est toujours la thématique. Il a essayé de déborder le Jobbik sur sa droite, mais bon, le Jobbik résiste, 20%. Mais il ne faut pas oublier que chez les Hongrois, l'extrême droite est instaurée depuis les années 20. Ce n'est pas un phénomène de mode. C'est-à-dire, il y a eu cette période dite de communisme de 1945 à 1991, mais il est revenu là où il a toujours été présent. Sur la scène. 45, 20%, c'est 65% de droite à droite. C'est vraiment du 13 à droite. Mais dans un contexte pareil, où chez les Hongrois, la thématique irrédentiste marche toujours. N'oublions pas que les Hongrois s'estiment lésés donc du traité de Trianon qui a amputé la Hongrie des deux tiers, d'un point de vue territorial. Et accorde aujourd'hui donc la citoyenneté hongroise à leurs ressortissants qui sont présents en Croatie, principalement en Voïvodine, dans le nord de la Serbie, en Roumanie, en Slovaquie aussi, ou en Ukraine. D'où cette politique nationale qui met en avant la préférence nationale qui va à l'encontre des valeurs européennes.
Oui, Robert, tu voulais intervenir là-dessus sur un autre sujet?
Non, mais je pense, effectivement, tu évoquais les élections en cours. On sait peu de choses sur l'Afghanistan, sauf que c'est un ouf de soulagement de toutes les chancelleries occidentales qui ont mené la guerre après en avoir chassé d'Afghanistan les Russes, les Soviétiques à l'époque, et qui constate que il n'y aurait pas eu trop de massacres dans le cadre de cette journée électorale.
Oui, ce qui est étonnant aussi, c'est que les talibans avaient prévenu qu'ils feraient beaucoup de perturbations, et finalement les gens n'ont pas eu peur, puisqu'il y a eu un pourcentage de votants à faire pâlir d'envie un président français à ces élections.
Il faut faire attention parce que les images, effectivement, de complaisance sont nombreuses. Et puis, il est évident que à Kaboul même, ça ne devait pas poser beaucoup de problèmes d'organiser sur le modèle occidental des élections de bonne tenue. Mais ailleurs, alors là, on ne sait pas trop ce qui se passe.
Oui, il ne faut pas non plus oublier que la démocratie afghane, il ne faut pas s'attendre effectivement que les gens aient voté après avoir mûri longuement, effectivement, voyez leur idée, c'est du clientélisme, c'est un système tribal, on vote comme le chef de tribu. Si le chef de tribu a décidé effectivement qu'il fallait prendre part à ces élections, eh bien on y prend part et on ne perturbe pas. Donc il va falloir surtout attendre après le deuxième tour, sachant que de toute évidence, il y aura besoin, le président sera élu de la majorité pachtoune, et il aura besoin pour ce faire, puisque les deux principaux candidats sont issus de cette ethnie, du soutien donc des Tadjiks. Donc là, on est toujours pareil dans cette soupe avec ses ingrédients où il faut bien doser et où, pour l'instant, la population vote comme son chef de tribu. Donc attendons un peu de voir avant de tirer des enseignements sur la bonne marche la démocratie afghane.
Oui, il faut rappeler que l'Afghanistan n'avait jamais été, avant les interventions des pays occidentaux, que ce soit les Soviétiques ou les Américains, n'avait jamais été un pays centralisé. qu'il y avait une monarchie dont l'homme Karzaï est le représentant, puisque finalement, après l'abolition de la monarchie, eh bien, c'est Karzaï qui appartient à ce cercle proche d'elle, qui a gouverné pendant maintenant plus de 10 ans, et qui veut perpétuer le modèle occidental, c'est-à-dire d'un État centralisé, mais on a bien compris que effectivement, c'est pas demain la veille que le président sera représentatif, si tant est que ça puisse l'être, dans un pays en guerre, et en plus avec des difficultés à la fois de pauvreté énorme, puisse effectivement faire sourire une démocratie pacifiée. D'autant que les Américains et l'ensemble des forces onusiennes vont se retirer très bientôt. Il en reste, je crois, 50 000, c'est quelque chose comme ça, je crois.
Alors, se retirer, oui, officiellement, mais les Américains, là aussi, on va le rappeler, hein, négocient, ils ont échoué avec Karzaï, donc ils attendent le nouveau gouvernement pour négocier donc l'établissement d'une base américaine, et ça sera probablement Bagram et deux, trois autres bases sur des concessions à long terme. Donc on voit bien que, à défaut d'avoir pacifié l'Afghanistan, qui était irréalisable, hein, ce pays montagneux, enclavé, avec pratiquement pas d'infrastructures, ce qui intéresse aussi les Américains, c'est prendre pied dans le grand jeu, dans le grand échiquier géopolitique. On sait bien effectivement que l'Afghanistan, c'est l'endroit où il faut être dans le futur. Donc là aussi, Karzaï avait. Là aussi, la presse occidentale n'a pas été très fair-play, hein, en disant effectivement que le président Karzaï ne voulait rien entendre parler, ne voulait pas entendre parler de signer un accord de stabilisation avec les troupes américaines pour leur présence permanente. Mais ce qu'on omettait de dire, c'est ce qu'on a proposé à Karzaï, c'est ce qu'on a proposé ailleurs, à savoir, c'est la présence de troupes, oui, mais aussi l'extrajudiciarisation de ces troupes-là. C'est-à-dire, ils peuvent continuer à tuer, d'aucune manière, ils seront responsables devant un tribunal afghan. Hein. On l'a vu ailleurs, et c'était ça qui était inacceptable dans l'État. Et c'est quand même assez étonnant que même notre grand journal de l'après-midi, là, Le Monde, ait omis effectivement de nous donner quand même cette information qui n'est pas anodine. Hein.
Voilà. Autre sujet, Michel, que tu avais envie d'évoquer ? Non, Robert, toi ?
Peut-être, mais là on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Il y a effectivement ces élections législatives dans le plus grand état de la planète, c'est-à-dire la Fédération indienne, oui. Avec
815 millions d'électeurs,
hein. Oui, une diversité d'états, de sous-états et des gouvernements locaux, et donc ça devait être fabuleux. D'ailleurs, comment organiser, on peut être admiratif, comment organiser des élections dans ce contexte-là.
Quand même, ils prennent 5 semaines pour les élections et ils nous donneront les résultats le 16 mai. Hein, donc ils prennent quand même du temps pour faire face à 1 million de bureaux de vote. Pour, tout ça pour élire finalement pas seulement 543 députés. Quoi. Voilà, dans
on
un
plus... ce...
Oui, vas-y, oui. Vas-y, vas-y.
Michel, tu parles ?
Oui. Non, je t'ai interrompu, mais je te laisse continuer.
Non, moi, ce que je voulais simplement dire, rappeler qu'il y a trois partis. Bon, le parti, on va dire, historique, le parti du Congrès, c'est Nehru, Gandhi et Enko, c'est-à-dire successivement les Gandhi, les Nehru qui étaient au pouvoir, avec un parti qui était plutôt occidentalisé, plutôt de centre-gauche, mais qui est largement corrompu à travers sa permanence au pouvoir. À côté de ça, il y a un parti plus nationaliste, le Janata Party, le BJP, qui, nous dit-on, va gagner les élections. Bon, c'est effectivement un peu le parti qui serait anti-occidental, mais c'est encore à vérifier. C'est sur le plan de la pratique économique, par exemple, il n'y a sûrement pas beaucoup de changements. Et puis était né ce Amam Admi Party, le AAP, qui alors s'est bâti sur la dénonciation, ben, effectivement, des deux grands partis, surtout du parti du Congrès, qui, non seulement au-delà de la dénonciation de la corruption, mène une politique très sociale, là où il a du pouvoir, dans certains États, et de pratiquer une politique à l'égard des pauvres, qui est, semble-t-il, lui a permis d'être aujourd'hui un parti qui compte comme troisième force dans la fédération indienne.
Voilà, il faut dire quand même un mot de ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Donc la Palestine a choisi d'adhérer officiellement à 15 traités internationaux. Ça n'a pas fait de pli, les Israéliens, comme d'habitude, on se demande de quoi ils se mêlent, ont aussitôt déclaré que c'était irrecevable et que dans ces conditions, ils annulaient la libération programmée des 100 prisonniers qui devaient libérer au titre des accords en cours. Là-dessus, les Américains s'énervent un peu et Kerry menace de se retirer du processus de paix en espérant ainsi mettre la pression et faire revenir tout le monde à la raison. Mais enfin, pourquoi est-ce que les Palestiniens, le peuple palestinien, ne pourrait pas adhérer à des traités internationaux au même titre que les autres, quoi?
Parce qu'il n'a pratiquement pas le soutien d'aucune chancellerie occidentale, déjà à commencer par les États-Unis d'Amérique, qui sont très hypocrites sur le dossier, et que ces discussions donc, entre Israéliens et Palestiniens n'ont qu'un seul but, c'est qu'on n'en voit pas la fin et que la politique du fait accompli continue dans les territoires occupés, et qu'à un moment, effectivement, il n'y aura plus rien de négocié, parce que la colonisation sera officialisé, on aura déjà une deuxième ou troisième génération de colons, hein, et donc de fait, ça sera la Judée-Samarie intégrée à Israël, et on proposera donc aux Palestiniens d'aller voir ailleurs pour un avenir un peu plus radieux, peut-être dans le Golfe, au Qatar, Émirats Arabes Unis. Enfin bref, c'est sans être sarcastique ou cynique, c'est un fait. Concernant la Palestine, il n'y a plus aucune espèce de soutien. Tant qu'il y avait la guerre froide, donc dans ce jeu effectivement des blocs soviétiques et occidentaux, il y avait un réel soutien de Yasser Arafat. Aujourd'hui, plus personne, à commencer déjà par les pays arabes, l'Arabie Saoudite, plus est préoccupé à maintenir ses bonnes relations avec les États-Unis que défendre la cause des Palestiniens. Les Jordaniens ont des problèmes internes assez grave, hein. Quand je dis les Jordaniens, à savoir la monarchie, hein, c'est se maintenir, parce que rien n'est moins sûr, hein. On ne sait pas effectivement si la Jordanie, dans 20 ou 30 ans, sera toujours une monarchie. Le feu couve, hein. La Syrie, n'en parlons pas, le Liban non plus, enfin l'Égypte, on voit bien où il en est, s'il est obligé de quémander pour que l'État puisse survivre des fonds à l'Arabie Saoudite et continuer à parier pour que les Américains continuent à leur verser aussi des dollars. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la cause palestinienne elle se réfère uniquement au droit, donc ce droit à pouvoir donc faire partie d'officines qui sont reconnues donc d'un point de vue international, mais le pouvoir aussi d'Israël finalement de menacer d'arrêter, enfin c'est pour parler, enfin ils font semblant parce qu'ils vont continuer, mais du moins s'ils peuvent bloqués, s'ils peuvent retarder, bon, ça leur coûte rien. Enfin, on parle depuis maintenant, les accords d'Oslo, on les a enterrés, et on continue à parler, mais il est un fait, c'est que la politique de colonisation, elle continue, elle est quotidienne, et que les produits israéliens, et notamment ceux fabriqués dans les territoires occupés, continuent donc progressivement à se trouver sur le marché de l'Union européenne et sans que ça pose problème donc, pour nos chancelleries.
Voilà, je vous propose d'arrêter là la partie internationale, à moins que vous ayez encore une brève. On n'a pas tout traité, mais il vous faudrait 2 heures faire le tour du monde. Avec une pause musicale, allez, on l'a fait avec Bernard Rascal, une petite nouveauté.
Rupture circulatoire, au point où je suis livide, je bascule dans le noir, facile d'être lucide. Je suis mort, juste au bord, juste au bord. Mais c'est pas moi qui décide si je vis ou si je décède, si je suis vraiment oxy ou si je reste en sursis. Moi qui décide, ça dépend du marché, de l'offre et des besoins, des organes recherchés pour les greffes et les soins. D'après le médical, je suis d'un genre compatible, même pour un animal, mourir n'est plus possible. Je suis mort, juste au bord, juste au bord. On me branche sur artifice, je sors du négatif, encéphalo-poussif, je suis un vivant factice. Je suis qu'une réserve de viande toute fraîche, et y'a de la demande, qui a un os qui de la chair. Je suis qu'une matière première. Je suis mort, juste au bord, juste au bord. Mais c'est pas moi qui décide si je vis ou si je décède, si je suis vraiment oxy ou si je reste en sursis. C'est pas moi qui décide. Mes rats partent pour Chartres, on me châtre pour Reims. Mes orteils sont pour foie et mon foie pour orthèse. Ma croupe, ça c'est un scoop pour l'arrière-train de la troupe. On me steak, on me stocke, on me trie, on me troque. Je suis mort, juste au bord, juste au bord. Sitôt mise à l'étal, je suis une peau qu'on pèle, des membres qu'on emballe, des chairs qu'on écartèle. Quand je suis plus qu'un rebut, sans rien qui se récupère, on me débranche, on me bute, évacuation au cimetière. Suis-je mort ?
Bernard Rascal en public, paroles, musique et interprétation de « Je suis mort » ou « Juste au bord ». Vous écoutez Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 7 avril. On aborde la rubrique nationale et il y aurait beaucoup à dire aussi. Michel et Arnaud sont dans un bateau, lequel va tomber à l'eau ? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Michel Sapin et Arnaud Montebourg n'ont pas pris le même avion pour aller à Berlin. Ça commence mal. Tout ça, donc, puisque tous les deux font partie du nouveau gouvernement, on a l'impression que le message des électeurs de lundi dernier n'a pas du tout été entendu, parce que c'est pas en changeant un Premier ministre et 2 guignols dans le gouvernement. Je pense pas que c'est ça que les électeurs réclamaient. Ils réclamaient un changement de politique, un changement de priorité sociale, et là, il semble pas qu'on est prêt d'être servi. On le saura un peu mieux demain, ou plutôt on ne le saura pas, lorsque M. Valls aura fait son discours à l'Assemblée nationale et qu'il demandera un vote de confiance qu'il devrait obtenir, malgré les tergiversations de la gauche, du PS et des écologistes, qui en une semaine ont vu beaucoup de choses changer pour eux dans le gouvernement. Mais peut-être on peut analyser ça un peu plus finement, Robert ?
Mais c'est-à-dire que Hollande, très 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 subtilement ou d'une manière très perverse, fait un gouvernement où il associe ce qui est le plus à droite du PS à ce qui était censé être le plus à gauche. Et puis, il envoie, par exemple, à Bruxelles, le représentant de cette droite, c'est-à-dire Sapin, et puis le représentant supposé de cette gauche, Montebourg. Donc, il y en a un qui est chargé de rassurer, et puis l'autre, il est chargé, sans doute, de de parler de Bruxelles, mais l'ensemble, c'est ce qu'il a fait, des peuples européens, en disant, eh bien, on va, à partir de maintenant, faire quelque chose de bien, on va tous se mettre au travail pour sortir de l'austérité, alors que Sapin, lui, dit, on va se mettre au travail pour faire des économies. Voilà, donc c'est effectivement deux discours contradictoires, et il est probable que Valls sera suffisamment habile pour mettre les deux dans son discours de demain, en rappelant que la ligne n'a pas changé, que c'est toujours le pacte de responsabilité auquel on adjoint un pacte de solidarité qui est effectivement quelque chose de creux dont on ne sait absolument rien, c'est-à-dire parce que il n'y a rien d'exiger en matière de contrepartie de la part du patronat. On changeait cap, nouveau cap, disent les députés socialistes. Alors on a appris aujourd'hui que 100 députés, c'est-à-dire un tiers à peu près de la représentation socialiste au Parlement, avait assigné un texte exigeant, le mot est peut-être sans doute trop fort, demandant un nouveau cap. Alors bon, on pourrait presque dire, si demain ce nouveau cap n'est pas défini concrètement par Valls, eh bien, ces 100 députés PS ne voteront pas la confiance. Évidemment, on peut rêver, ça se passera sûrement pas comme ça. Du côté des Verts, on essaye de les rassurer pour leur dire, abstenez-vous si vous voulez, mais vous pouvez même voter avec nous. Et les Verts, effectivement, qui ont évité la scission, alors que cette scission, elle était vraiment presque organisée par la presse. On se souvient, le discours violent de la presse qui... Bon, c'est une presse de droite et qui a dit c'était presque les députés de ELV, les députés verts sont prisonniers du parti, prisonniers des gauchistes. Enfin, c'était un discours insensé qu'on a entendu la semaine dernière. Bon, tout semble être calmé, d'autant que samedi, les Verts ont décidé la liberté de vote pour les députés. Donc, tout va bien. Pour la gauche de gauche, eh bien, elle va effectivement monter au créneau, elle l'a annoncé depuis longtemps, monter au créneau à la fin de la semaine, avec un grand. Normalement, il n'y a qu'un grand rassemblement national, c'est à Paris, à 14h, je ne sais plus si c'est Bastille ou République, le samedi 12 avril. Alors c'est au départ, c'était un appel Front de Gauche élargi, NPA, et puis beaucoup de gens ont rejoint la société civile, comme on dit, comme par exemple l'ATTAC, ou les syndicats, ou d'autres mouvements de lutte qui dénoncent l'austérité. Alors la base, c'est effectivement contre l'austérité et contre en même temps ce que provoque l'austérité, c'est-à-dire la montée fascisante d'une extrême droite qu'on a bien vu se profiler pendant l'élection municipale. Et puis il y aura des rendez-vous secondaires notamment à Marseille. Alors Marseille, c'est surtout autour des syndicats et essentiellement la CGT, mais ça va sans doute à Marseille rassembler beaucoup de monde, tout simplement parce que Paris, c'est loin, et que Marseille veut aussi se rassurer peut-être du côté de la gauche de gauche et de la gauche tout court, après effectivement la débandade qui s'est produite lors de ces mêmes élections. Voilà pour un peu, si on essaye de dresser rapidement le paysage. Il est peu probable que Manuel Valls, demain, fasse que beaucoup de gens se disent c'est pas la peine d'aller à Paris dimanche, le samedi, et puis que c'est peut-être pas la peine de s'agiter beaucoup. Là, ça serait effectivement... C'est impensable parce que la conjoncture est telle que rien ne laisse supposer une telle modification fondamentale de l'orientation du gouvernement et de François Hollande sur sa décision de manœuvrer Alors, on rappellera, on aurait pu le dire qu'à Bruxelles, eh bien samedi, c'était quand même une bonne surprise, parce que la presse l'avait complètement oublié, qu'il y avait une mobilisation syndicale de 50 000 personnes sur un thème qui était, au-delà de dénoncer l'austérité européenne, c'était aussi de dire, eh bien, on peut déjà combattre cette austérité en décidant au niveau de l'Union européenne, et il y aura des élections le 25 mai, de mettre sur la table 250 milliards d'euros pour, en termes d'investissement pour l'emploi, et donc inverser cette fois-ci pour de bon la courbe du chômage.
Oui, à propos des économies annoncées par le gouvernement à faire, on en sait un peu plus aujourd'hui. Il paraît que sur les 50 milliards, il y aurait 17 milliards imputables à l'État auprès de ses 550 opérateurs, 23 milliards à la Sécu. Ça laisse entrevoir des perspectives, comme on ne va pas les prendre sur les revenus des médecins et des radiologues, ça laisse entrevoir des perspectives de diminution des soins, des possibilités, des qualités et autres. Et il y aurait 10 milliards sur les collectivités locales. En clair, il faudra que les communes aillent chercher leurs revenus ailleurs. Autrement dit, une augmentation des impôts locaux qu'on ne pourra pas mettre sur le dos de l'État. Puisque... Donc tout ça n'a rien de réjouissant. On voudrait faire des suggestions à ce gouvernement, lui rappeler par exemple que l'installation à Bure de stockage des déchets nucléaires en souterrain, c'est un budget de 35 milliards qui est prévu. Donc s'il veut économiser 35 milliards, il arrête Bure, il supprime tout. De toute façon, c'est pas en les mettant là qu'on va les pérenniser pendant des milliers d'années. Et puis, on n'est pas à 10 ou 20 ans près pour chercher une solution. Et en attendant, ils peuvent rester dehors. Donc voilà, 35 milliards qui sont faciles à économiser. Mais je vous dis pas les lobbies qui feraient la gueule si on arrêtait une telle opération.
Et puis il y a la masse des profits capitalistiques qui continuent de s'ajouter aux précédents en profits. Par exemple, si on a un exemple concret, il y a le groupe d'assurance Allianz. Les salariés de ce groupe se sont mis en grève parce que ils savent que Allianz a fait 6 milliards. Je dis bien, il faut bien entendre les chiffres, 6 milliards de bénéfices l'année dernière. Elle a distribué, Allianz distribue 18% de la partie qui ressort après du bénéfice net en dividendes. 18% vont aller aux actionnaires, 18%. Et les salariés vont toucher... c'est même des augmentations de salaire, entre zéro, pour une partie, ça sera zéro, et pour une autre partie, ça sera au maximum 0,6% d'augmentation des salaires. Voilà, et bien là, on a effectivement la preuve évidente qu'en fait, rien ne change et que les profits capitalistiques s'accumulent, qu'ils existent et que plutôt que de demander ce que tu viens de bien décrire là, de demander aux collectivités territoriales de se saigner, donc finalement de saigner les citoyens, et souvent c'est pas forcément les citoyens les plus riches qui payent dans ce cas-là, eh bien non, on ne le fait pas, et donc demain tout ça c'est au passif de ce nouveau gouvernement dont on ne peut guère, semble-t-il, c'est ce qui se dit effectivement, par exemple, dans la gauche de gauche, front de gauche, qu'on ne peut rien attendre.
Oui. Dans le même genre d'opération, je voulais souligner l'affaire France Télécom. Comment l'État actionnaire se goinfre ? Parce que le gouvernement dénonce les capitalistes qui se goinfrent en versant 76% des bénéfices des entreprises du CAC 40 sous forme de dividendes. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde d'un peu près ? Paraît-il, c'est que c'est le canard enchaîné qui nous révèle tout ça. Dans les entreprises publiques dont l'État est actionnaire, c'est 79%, donc 3% de plus qui est versé sous forme de dividendes. Et quand on prend le cas d'Orange, où l'État est actionnaire à 27%, en 2013, ils ont eu le culot de verser 2,2 milliards de dividendes, alors que le bénéfice n'était que 1,9 million. Et en 2012, c'était encore pire, ils ont versé 2,5 fois les bénéfices en dividendes. Où ils le prennent, cet argent? Il faut savoir que l'État est complice parce que la moitié de ces dividendes versés reviennent dans les caisses de l'État. Comme l'État est actionnaire, il les récupère et il en utilise la moitié pour le FSI, le Fonds stratégique d'investissement, puis la moitié pour ses propres dépenses. Alors comment l'État pousse à verser des dividendes pour les récupérer quand il est lui-même actionnaire? Et qui paye toutes ces folies? Eh ben, c'est le bon citoyen consommateur de téléphone.
Oui, c'est la théorie de l'offre et de la demande. L'offre, ben, c'est le patronat, les entreprises qui l'a fait, et puis la demande, eh ben, ma foi, elle attendra que ce que l'offre, ce que le MEDEF met sur le marché en termes financiers, investissement et emploi. Je voulais dire un mot de la campagne qui maintenant est bien lancée, c'est la campagne TAFTA. Alors c'est un mot symbolique, c'est drôle parce que ça rappelle effectivement, c'est pas la même orthographe hein, puisque c'est un sigle. En fait c'est le grand marché transatlantique qui se négocie dans la coulisse en ce moment entre l'Union européenne et les États-Unis pour définitivement lever toutes les barrières, on va mettre le mot barrière entre guillemets, les barrières sur le commerce. Alors ça commence par effectivement les marchandises et puis demain ce sera les services publics, santé, éducation, tout ça. Donc tout ça c'est dans une négociation discrète et donc à partir d'une initiative notamment d'attaque, mais pas seule aujourd'hui, attaque est rejoint par des dizaines d'associations et pas seulement au plan français, eh bien la campagne est menée pour dire stop à TAFTA, stop à cette négociation. Et puis par exemple en France, les socialistes aussi commencent à trouver pour un certain nombre d'entre eux qu'il faut arrêter ça, ça suffit comme ça. Et par exemple c'est les régions comme PACA, Île-de-France et Limousin, c'est la fin de la semaine dernière, eh bien elles ont voté des résolutions en disant stop TAFTA si effectivement c'est bien ce qu'on nous annonce. Alors par rapport à ça, il y a eu un document qui est adressé à tous les députés sortants européens et peut-être entrants futurs. Ça toucherait à une alternative, c'est-à-dire ce serait le mandat commercial alternatif, alors qui démonte tout ce qui se prépare dans la coulisse et qui effectivement offrirait effectivement des garanties sur tout ce qu'on vient de dire. Alors c'est un texte qu'on peut trouver sur alternativetradmandate.org et toutes les informations d'ailleurs on les a aussi sur stoptafta.org.
Voilà, on arrive presque au terme de Scanu Info, juste quelques annonces. Ben, d'une part, si vous voulez tout savoir sur le psychodrame de changement de gouvernement, vous pouvez lire la pochette du Monde de dimanche lundi. Il y a pas mal de petites choses intéressantes. Et puis, au théâtre cette semaine, du 8 au 13, de mardi à dimanche, vous pouvez aller voir à l'espace 44 Un petit garçon et par Michel Laforêt dans une mise en scène de Christian Nadin. C'est quelque chose de très beau, paraît-il. Jeudi, à le Palais de la Mutualité, à l'initiative d'Atou Boutchamp, Grinol Racht et Pascal Mathieu. À l'initiative des mêmes, vendredi, Michel Bernard, les Cléa Molette et Claudine Lebeg. Et puis, il y a aussi la note bleue de la musique canadienne. La note bleue, c'est à Chana Lamballan. Vous pouvez regarder le site sur 534 Chemin des Marais. La musique canadienne, le duo Dupuis-Morisette. Voilà pour cette courte sélection. Ce Canu Info sera rediffusé.
Peut-être un mot encore, je peux dire, oui.
30
simplement
secondes.
Signaler que ben demain c'est la nouvelle humanité, hein, dans tous les sens du terme. C'est le journal, mais ça pourrait être plus. Et puis qu'aussi, le 4 avril 14, eh bien, naissait Marguerite Duras. Et je pense qu'à Canu, on a beaucoup parlé de Marguerite Duras.
Marguerite aurait eu 100 ans si elle avait un peu moins bu et fumé, peut-être. Bonsoir. Oh.